Alors aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, chant 3, livre 7, l'entrée dans les pays intérieurs. Tout d'abord, sorti de la trépidation affairée du mental, subitement, comme d'une foule bruyante au marché, elle est entrée dans une caverne. Par la magie d'un moment d'intériorisation, son moi est devenu une vacuité nue et silencieuse. Désertée par les voies de la pensée, son mental fixait la nudité abyssale d'un infini muet. Ses hauteurs s'éloignaient. Ses profondeurs se refermaient derrière elle. Tout lui échappait et la laissait béante. Mais quand elle est revenue à son moi présent, Mais quand elle est revenue à son moi pensant, une fois de plus, elle était une créature humaine sur la terre. Un paquet de matière, une maison à la vue barrée, un mental obligé d'expliquer l'ignorance, une force de vie comprimée dans un camp de travail et un monde matériel pour champ borné. Stupéfaite et comme sans connaissance, elle cherchait son chemin. Pour sortir du labyrinthe du passé ignorant de l'homme, qui prenait la surface de la personne pour l'âme. Alors une voix a parlé qui habitait sur les hauteurs secrètes. C'est pour l'homme que tu cherches, non pour toi seul. C'est seulement si Dieu revêt le mental humain et prend sur lui l'ignorance mortelle comme un manteau et se fait lui-même le nain à trois pas, qu'il peut aider l'homme à devenir divin. Déguisée en homme, la grandeur cosmique travaille et découvre le seuil mystique inaccessible et ouvre la porte d'or de l'immortel. L'homme humain suit les pas humains de Dieu. Acceptant ces ténèbres, tu dois lui apporter la lumière. Acceptant son chagrin, tu dois lui apporter la félicité. Dans le corps de la matière, découvre ton âme née des cieux. Alors Savitri est sortie des murs de son corps et elle est restée un temps hors d'elle-même. Et elle a regardé dans les profondeurs de son être subtil. Et dans ce cœur, comme dans un bouton de lotus, elle a pressenti son âme secrète et mystérieuse. À cet obscur portail de la vie intérieure qui bloque nos profondeurs mentales du corps et tout ce qui vit par le seul souffle du corps, elle a frappé et pressé la porte d'ébène. Le portail vivant a gémi sur ses charnières rétives. À contre-cœur et lourdement inerte, il protestait contre la tyrannie du toucher de l'esprit. Pardon. Du dedans, une formidable voix a crié. Arrière créature de la terre, sinon torturée et déchirée, tu mourras. Un horrible murmure s'est levé comme d'une mer nocturne. Le serpent du seuil s'est dressé en sifflant. Fatal gardien encapuchonné de monstrueux anneaux. Les chiens des ténèbres hurlaient, gueules béantes, et trop les gnomes et gobelins au regard torve, et les bêtes sauvages rugissantes saisissaient de peur le sang, et des menaces grondaient dans une langue dangereuse. Imperturbable, sa volonté poussait la barrière. Le portail a basculé avec un grincement de protestation. Les puissances adverses ont retiré leur terrible garde. Son être est entré dans les mondes intérieurs. Dans un étroit passage se dressait la porte du subconscient. Elle respirait avec difficulté et peinait et luttait pour trouver le moi intérieur dissimulé derrière les sens. Dans une densité compacte de matière subtile, une cavité remplie d'une masse d'énergie aveugle, une obstruction de miroitement trompeur, l'épaisse barrière d'une vue qui ne voit pas. Elle a forcé son chemin à travers le corps jusqu'à l'âme. Elle a traversé une ligne frontière périlleuse où la vie plonge dans le crépuscule subconscient et se débat entre la matière et un premier chaos mental, pullulant d'entités élémentaires et de vagues formes de pensées voltigeantes à demi-incarnées et de grossiers débuts d'une force sans frein. Tout d'abord, il y avait une difficulté. Tout d'abord, il y avait une difficile étroitesse, une mêlée de pouvoirs incertains et de volontés flottantes, car tout était là. Mais rien n'était à sa place. Parfois, une ouverture venait, une porte était forcée. Elle croisait les espaces d'un moi secret, cheminait par les couloirs du temps intérieur. Finalement, elle a débouché dans une forme des choses, un début de finitude, un monde de sensations. Tout était encore confus. Rien ne se trouvait par ses propres moyens. L'âme n'était pas encore là, seulement les cris de la vie. Une cohue et une clameur dans l'air l'enveloppait. Une horde de sons défiait tout sens, des cris stridents et dissonants et des appels contraires, un déferlement de vision traversait la vue. Des séquences se bousculaient, sans sens ni suite, des sentiments assaillaient un cœur embrouillé et accablé. Chacun forçait son chemin particulier incohérent. Nul ne se souciait de rien que de la poussée de son ego. Un rassemblement sans la clé d'une volonté commune. Les pensées affrontaient les pensées tirées sur un cerveau crispé, comme pour arracher le siège de sa raison et jeter son cadavre dans le fossé au bord de la vie. Ainsi, la sentinelle de l'âme pourrait-elle tomber dans la boue de la nature oubliée, abandonnée et tuée? Ainsi, la force de vie pourrait-elle renverser l'empire du mental? La nature renoncer au gouvernement de l'esprit et les énergies brutes des éléments s'emparer d'essence dans une gloire de joie sans borne? Une splendeur d'anarchie extatique, une orgie d'exultation grandiose et folle. Tels étaient les sens de l'instinct vidé de l'âme. Ou quand l'âme dort cachée et vide de force. Mais alors la divinité vitale se réveille dedans et soulève la vie d'un doigt souverain. Sinon, comment pourrait venir la gloire et la flamme si le mental est jeté dans l'abîme? Car sans mental, le corps n'a pas la lumière, ni le ravissement spirituel des sens, ni la joie de la vie. Dès lors, tout devient subconscient, ténébreux. L'inconscience pose son sceau sur la page blanche de la nature, ou bien quelque désordre dément fait tourbillonner le cerveau et jette un chaos d'impulsions désordonnées sur les routes d'une nature ravagée, où nulle lumière ne peut venir, nulle joie, nulle paix. Cet état maintenant menaçait Savitri. Elle luttait pour en sortir. Comme ballottée dans une longue, interminable rue, charriée par une foule écrasante et harcelante, heure après heure, elle avançait sans répit, tenant tête à cette meute insensée à la force de volonté. Elle arrachait sa volonté de cette horrible mêlée et fixer sa pensée sur le non-sauveur. Alors tout est devenu silence et vide. Elle était libre. Une grande délivrance est venue, une vaste calme espace. À un moment, elle a traversé une blanche tranquillité de lumière nue jaillit d'un invisible soleil, un vide qui était un bonheur sans corps, un vacuum béatifique de paix sans nom. mais maintenant le seuil d'un danger plus puissant s'approchait. La mêlée du mental corporel, la progéniture de l'inconscient et ses pensées, ses volontés désordonnées étaient tombées d'elle. Une gigantesque source de vie est apparue, menaçante, sans gouvernement du mental, ni de l'âme subconsciente, immense. Elle jetait toutes les énergies dans une seule et même marée. Elle faisait de sa force une mer violente et dangereuse. Dans une tranquillité du moi silencieux de Savitri, dans la blancheur de son espace méditatif, une ruée, un torrent, un déchaînement de vie a éclaté comme une furie de vagues fouettée par les vents, déferlant sur les sables blancs de l'été. Elle noyait les côtes, une montagne de vagues à l'escalade. Énorme son immense tumulte passionné. En roulant, elle criait à l'esprit de Savitri qui écoutait, exigeant la soumission de Dieu à la force sans chaîne. Une force sourde sommait une altitude muette. Un millier de voix dans une vastitude de silence réclamait le soutien du cœur pour sauter sur la joie. Le consentement de l'âme spectatrice pour son besoin d'agir, le sceau de la neutralité de l'être pour sa soif de puissance. Dans les étendues du moi de Savitri qui regardait, elle apportait une grandiose rafale de souffle de vie. Son torrent disait les espoirs et les peurs du monde. Un cri de faim et de mécontentement de toute la vie et de toute la nature, et une soif que toutes les éternités ne peuvent combler. Elle demandait aux montagnes les mystères de l'âme et le miracle du feu qui ne meurt jamais. Elle proclamait une première extase ineffable, cachée dans le battement créateur de la vie. Elle l'arrachait aux abîmes invisibles des enfers, leur séduction et la magie de leur félicité délirante. Elle déversait dans la lumière de la terre, l'égarement de son charme tortueux et le breuvage capiteux de la joie primitive de la nature, et le feu et le mystère des délices interdits, but au puits sans fond de la libido cosmique, et le doux miel empoisonné de la luxure et de la mort. Mais elle rêvait d'une vendange glorieuse des dieux de la vie et sentait ce venin doré comme une ivresse céleste. Les cycles infinis du désir et la mystique qui a créé un monde pas encore réalisé, plus vaste que le connu et plus proche que l'inconnu, où chasse à jamais la meute du mental et de la vie, soulevée dedans une impulsion profondément insatisfaisante, à désirer l'inaccompli et le toujours plus loin, et à faire de cette vie sur une terre bornée une escalade de sommets qui s'évanouissait dans le vide. Une recherche de la gloire, de l'impossible. Elle rêvait de ce qui jamais n'a été connu. Elle tâchait d'étreindre ce qui jamais n'a été conquis. Elle chassait dans une mémoire élyséenne les charmes d'un délice trop tôt perdu et disparu du cœur. Elle défiait la force qui tue, les joies qui blessent, la forme imaginaire des choses inaccomplies et les invites magiques d'une danse circéenne transmutatrice. Et les tenancières de la passion sur les parvis de l'amour et les colères et les ébats de la bête sauvage avec la vie et la beauté. Elle apportait les remous et les larmes de fond des forces contraires, les moments de contact avec les plans de lumière, ces ascensions brûlantes et ces vastes assauts jusqu'aux nues, ces châteaux de rêves ardents bâtis sur le vent, ces naufrages dans l'abîme et les ténèbres, son miel de tendresse, son vin de haine cuisant, ces passages du soleil aux nuages, du rire aux larmes, le danger de ces puits d'enfer et ces gouffres dévorants, ses peurs et ses joies et son extase et ses désespoirs, ses sorcelleries occultes, ses lignes indirectes et ses communions grandioses, et ses soulèvements exaltants, sa foi en les cieux et ses amours avec l'enfer. Ses forces n'étaient pas émoussées par le poids mort de la terre. Elles donnaient le goût de l'ambroiserie et le mordant du poison. Il y avait une ardeur dans le regard de la vie qui voyait le bleu des cieux dans l'air gris de la nuit. Les impulsions vers Dieu bondissaient sur les ailes de la passion, les pensées trottantes du mental, du haut de leur col, faisaient flotter quelques superbes rutilances comme d'une crinière irisée, quelques parures de pure lumière intuitive. Elle pouvait imiter son galop aux jarrets de feu, les voix du mental singer les accents de l'inspiration, sa note d'infaillibilité, sa vitesse et sa fulgurance du bon céleste des dieux, comme une lame tranchante qui coupe les filets du doute. Le glaive de son discernement semblait presque divin. Et pourtant, toute cette connaissance était d'un soleil emprunté. Les formes qui y venaient n'étaient pas nées natives des cieux. Une voix intérieure pouvait dire le verbe de l'irréel. Sa puissance dangereuse et impérieuse pouvait mélanger le poison au vin de Dieu. Sur ses hautes croupes brillantes, le faux pouvait caracoler. La vérité reposait avec délice dans les bras passionnés de l'erreur et glissait allègrement la pente avec des zigzags dorée. Elle liserait son rayon d'un somptueux mensonge. Ici, dans les royaumes bas de la vie, tous les contraires se rencontrent. La vérité regarde fixement et fait son travail les yeux bandés. Et l'ignorance est le patron de la sagesse ici. Ces sabots qui galopent dans leur hâte enthousiaste pouvaient conduire à une zone intermédiaire dangereuse où la mort marche, vêtue d'une robe de vie immortelle. Ou bien ils entrent dans la vallée des fausses lueurs, d'où captives et victimes du rayon spécieux, les âmes piégées dans cette région, ne peuvent jamais sortir. Agents et non maîtres, elles servent les désirs de la vie, peinant à perpétuité dans les filets du temps, nées des entrailles du rien. Leur corps enjôle l'esprit dans les rêves d'un moment, puis périt en vomissant l'âme immortelle, rejetée du ventre de la matière dans le cloaque du néant. Pourtant, quelques-uns, ni pris ni tués, peuvent passer s'ils sont guerriers. Pourtant, l'image de la vérité dans leur cœur abrité, ils peuvent arracher la connaissance aux griffes hypnotisantes de l'erreur, faire une brèche dans les murs aveugles du petit moi, puis continuer sur la route vers une vie plus grande. Tout cela déferlé devant la vision de Savitri, comme si, autour d'une haute île de silence, les mers tumultueuses de lointaines falaises inconnues avalaient ces étroits rivages en vagues serrées et faisaient un monde vorace d'écume blanche sauvage, tel un dragon au milieu de pattes pressantes. Son écume et ses clameurs étourdissantes de géants ivres jetaient une crinière de ténèbres dans le ciel de Dieu, puis refluaient et s'enfonçaient dans un lointain grondement. Alors, encore une fois, souriait dans un air serein et large le bleu du ciel et la terre verte, époux du règne de la beauté, vivait comme jadis compagnon du bonheur et la joie de la vie riait au cœur du monde. Maintenant, tout était tranquille. La terre brillait ferme et pure. Pendant ce temps, sa vitrine n'avait pas bougé, et plongée dans les veines vagues, les clameurs de la vie avaient fui les vastitudes du moi silencieux. Son esprit était libre et muet. Sri Aurobindo. L'entrée dans les pays intérieurs, Savitri, livre 7, chant 3. Une infinie gratitude à Sri Aurobindo et à Douce Mère. Ganga Lakshmi.